Protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Sunwoo Assurance qui vous propose Priorité Santé. Sunwoo Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Un rhume, un mal de tête, des maux de ventre ou les yeux qui larmoient, qui n'a pas soigné lui-même ce type de petit problème de santé. Ces troubles, ces douleurs poussent à chercher un remède sans recourir au savoir du médecin. Faute de temps, parce que l'on croit savoir ou parce que, faute de remboursement, on juge inutile de présenter une ordonnance au pharmacien. L'automédication, c'est une réalité partout dans le monde, même si dans certains pays, la population a davantage recours à cette prise de médicaments sans consultation. Pourtant, cette pratique mérite une prudence certaine. D'abord dans l'évaluation des symptômes, ensuite dans le choix du produit, son dosage et dans les interactions possibles avec d'autres produits déjà pris par le patient. Dans certains cas, l'automédication pose aussi la question de la qualité des produits en fonction, bien sûr, du lieu d'achat, officine, internet ou même les allées d'un marché. Question sur la date de péremption, la toxicité éventuelle ou le manque d'efficacité des médicaments contrefaits. Car s'il se passe de l'avis du médecin, le patient ne doit jamais perdre de vue que s'il s'attend au résultat d'un produit, c'est parce que celui-ci présente un principe actif qui ne peut en aucun cas être anodin pour sa santé. Les avantages, les limites et les risques de l'automédication. Avec nous en studio, professeur Alain Beaumelou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière Sorbonne Université, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à cette question, notamment co-auteur d'Automédication pour les nuls aux éditions First. Vous avez également signé Le Vidal de l'automédication aux éditions Larousse Diffusion. Avec nous également Nathalie Richard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice adjointe des médicaments en antalgie au sein de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Et puis tout à l'heure, nous allons rejoindre Emilienne Yissibi-Pola, pharmacienne de santé publique, secrétaire générale du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun.
Priorité santé sur RFI.
Alors hier, une opération chirurgicale nous avait empêché de vous parler, mais cette fois-ci, vous êtes bien avec nous et c'est un immense plaisir et un grand honneur de vous parler, docteur Denis Mukwege. Bonjour.
Bonjour madame.
On vous retrouve en ligne de bouc à vous, docteur Mukwege. Après l'annonce de vendredi, le prix Nobel de la paix, vous le partagez avec Nadia Mourad, cette jeune femme irakienne yézidi, ex-otage du groupe islamique et victime de viol, 4 jours après l'annonce. Est-ce qu'aujourd'hui, la pression est retombée à Bukavu?
Pas du tout. On a vraiment la presse. Et puis, il y a beaucoup de demandes de médias. Et ça, c'est encore très, très fort.
Et au niveau de vos émotions, de votre ressenti, vous avez rendu visite à des proches après l'annonce du prix Nobel. Qu'est-ce que vous avez partagé avec votre entourage?
Bon, je crois qu'avec mon entourage, nous avions beaucoup plus partagé le fait que le prix Nobel qui vient de nous être attribué, nous est attribué dans un contexte de conflit, puisque à l'hôpital, nous continuons à recevoir des malades, des victimes de viols et violences sexuelles dans des zones contrôlées par des groupes armés. Et ça, effectivement, c'est une responsabilité que nous sentons encore beaucoup plus lourde qu'elle l'était hier.
Alors justement, hier, retour au bloc opératoire, sans trahir bien sûr le secret médical, docteur Denis Mukwege, est-ce que je peux vous demander quel type d'intervention vous avez réalisé?
Effectivement, là, quand vous me posez une question comme ça, effectivement, je fais très attention au secret médical. Tout le monde suit ce que je fais, donc je ne vais pas trahir.
Des petites filles, des patientes, des femmes que vous soignez, des vies bouleversées, Denis Mukwege. En ce moment, dans votre hôpital de Panzi, combien de femmes sont prises en charge?
Pour le moment, en fait, l'année 2015, on avait vu vraiment une diminution et ça nous inspire. En fait, on espérait que les choses étaient en train de rentrer dans l'ordre. Mais fin 2016, malheureusement, on a vu une recrudescence de victimes encore de violences sexuelles. Et là, l'année passée, nous étions autour de 1600. Et ça, ça nous inquiète que nous puissions remonter les chiffres alors que ça diminuait sérieusement. Et le deuxième fait, c'est que le pourcentage des mineurs et des enfants qui sont violés est en augmentation constante. Ça aussi, c'est une inquiétude, puisque les chiffres sont en train de s'inverser et les victimes deviennent de plus en plus des mineurs. Ça, c'est très inquiétant.
Docteur Denis Mukwege, il y a 3 ans, Priorité Santé, Claire Edon, vous avez rendu visite dans votre hôpital de Panzi à Bukavu. Qu'est-ce qui a changé justement sur ces 3 années? Vous le dites, plus de patients plus jeunes, des vagues en fonction des vagues de violence qui s'attaquent sur cette région du Kivu. Qu'est-ce qui change pour vous dans la pratique et dans la façon dont vous prenez en charge ces femmes dans votre centre de santé?
Bon, nous avions développé une prise en charge centrée sur la personne, et cette prise en charge centrée sur la personne, elle est holistique. Et donc, à l'hôpital, on fait la prise en charge médicale, bien sûr, la prise en charge psychologique, puisque nous avons maintenant des psychologues et cliniciens qui travaillent en collaboration avec nous. Et en dehors de l'hôpital, nous avons 2 piliers. La prise en charge socio-économique et la prise en charge légale, et qui se font en dehors de l'hôpital avec les juristes et les économistes ruraux. Et avec ces 4 piliers, c'est essayer d'amener les victimes à une guérison totale, puisque parfois on peut penser que lorsqu'on a soigné les lésions physiques, ça suffit. Ça ne suffit pas. Il faut vraiment aller jusqu'au bout, et donc prendre en considération l'état mental, l'état économique, l'état social, et puis la justice, c'est pour finalement redonner aux victimes la dignité perdue, que la communauté puisse accepter qu'elle a eu tort et que la communauté puisse réparer. Et donc c'est ça la lutte contre l'impunité. Et ce qui a beaucoup évolué, effectivement, c'est que nous travaillons maintenant en guichet unique ou One Stop Center, où les femmes n'ont pas répété 10 fois ce qui leur est arrivé, mais en une seule fois, il y a une maman chérie, ou en fait une femme qui les accompagne dans tous les systèmes, et je trouve que les résultats sont éloquents.
Parce qu'il faut aussi se réinsérer au sein de la communauté, retourner au village, justement. Vous parlez de cette douleur, les blessures, et bien sûr la dimension criminelle, docteur Denis Mukwege. Comment vous, le médecin, vous pouvez agir dans des domaines qui ne sont pas, à strictement parler, les vôtres, l'éducation aussi, surtout la justice?
Mais effectivement, vous savez... Donc, au début, on était strict, donc c'était la prise en charge médicale, on opérait, on traitait les infections sexuellement transmissibles quand il y en avait, et on s'arrêtait là. Mais malheureusement, on s'était rendu rapidement compte que les malades revenaient et vraiment, en fait, ils somatisaient toutes leurs souffrances, et qu'à la fin, même si vous aviez soigné médicalement, elle développait d'autres maladies dues au fait que leur partie mentale n'a pas été prise en charge. Et là, pour les 2 piliers, nous travaillons à l'hôpital. Mais pour les 2 autres piliers, donc économique, social et juridique, ça s'est fait en dehors de l'hôpital, et nous donnons comme une carte que les patientes acceptent les services ou non, mais c'est leur choix. Et là, nous l'intégrons dans le système pour permettre en fait à ceux qui nous puissent être complets. Pour nous, c'est vraiment en fait un système, une prise en charge qui nous donne des résultats qui sont éloquents, puisque finalement l'homme est complexe.
Merci infiniment, docteur Denis Mukwege, d'avoir répondu aux questions de Priorité Santé. Toute notre équipe et sans aucun doute les auditeurs de l'émission vous adressent encore leurs félicitations pour ce prix Nobel de la paix. Prix, je rappelle, que vous partagez avec Nadia Mourad, jeune femme yézidi devenue porte-parole de la lutte contre les violences faites aux femmes après avoir été l'otage du groupe État islamique en Irak. Très bonne journée à vous, docteur. On en vient avec nos invités en studio à notre deuxième sujet du jour, l'automédication. Piocher dans son armoire à pharmacie ou se procurer des médicaments sans consultation, sans ordonnance, sans l'avis d'un médecin. Professeur Alain Baumelou, comment définir une automédication pertinente et responsable ?
Moi, laissez-moi revenir sur l'interview là que vous avez...
Du docteur Mukwege.
Du docteur Mukwege, et qui montre... Pour moi, deux choses extraordinaires. La première, c'est qu'il a mis en avant le fait que dans notre système de santé, la réflexion, elle est centrée sur le patient. Et je pense que c'est important de réfléchir en termes de satisfaction du patient. Je travaille aussi beaucoup sur les médecines non conventionnelles. C'est d'ailleurs assez proche comme thème de l'automédication. Mais c'est justement pour essayer de répondre à cette demande des patients. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on abordera peut-être dans le domaine de l'automédication, c'est le terme qu'il a utilisé de médecine holistique. Une prise en charge globale de l'individu. Et peut-être que c'est un défaut de l'automédication, en ce sens que l'individu reste avec lui-même. Et que dans une prise en charge globale médicale, pharmaceutique, sociale, il a beaucoup insisté aussi sur psychologique dans un domaine très très particulier, c'est un autre système de santé à inventer, quel que soit le pays, j'aurais tendance à dire. La France n'est pas à l'abri d'une certaine segmentation des professions de santé.
Ce que vous dites, c'est que se soigner, c'est pas simplement prendre une gélule.
Absolument. Se soigner, c'est pas simplement prendre une gélule. Faut l'apprendre déjà. Alors, vous me posez le problème de l'automédication responsable. Je pense qu'en effet, automédication, il y a un secteur de l'automédication qu'on peut appeler automédication responsable qui consiste à prendre pour des symptômes que l'on connaît très bien, à la limite des symptômes qui sont récurrents dans le domaine d'une pathologie chronique, mais des symptômes que l'on connaît très bien, prendre le bon médicament à la bonne dose. Alors ça, c'est le meilleur des mondes, et on va essayer de le créer aujourd'hui, mais il n'existe pas tellement.
Alors quand on prend un médicament, on parle toujours de ce fameux rapport bénéfice-risque. Nathalie Richard, quand on se passe de l'avis d'un professionnel de santé, comment on peut l'évaluer ? Est-ce que chacun dans la société en a les moyens ?
Alors déjà, il faut savoir que tous les médicaments ne peuvent pas être délivrés en automédication. Et heureusement, c'est-à-dire que, bien évidemment, l'avis d'un médecin, pour certaines maladies, on va dire, plus graves, est complètement nécessaire. Par contre, pour des petits maux ou des pathologies, enfin des maladies bénignes, c'est vrai que certains médicaments peuvent être pris, acheté directement à la pharmacie et pris par le patient directement sans l'avis du médecin. Donc les médicaments qui sont en automédication ont montré que quand ils peuvent être pris en automédication, ils ont en fait les risques ne sont suffisamment le rapport bénéfice-risque est suffisamment favorable pour que ces médicaments soient pris directement par le patient, mais avec par contre l'avis du pharmacien.
Alors, la tendance générale, c'est que dans certains pays, c'est très populaire l'automédication. On le voit notamment aux États-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne, beaucoup plus de médicaments achetés sans ordonnance. Comment on peut expliquer ça, justement ? Parce que finalement, les Français, eux, utilisent bien sûr l'automédication, mais peut-être beaucoup moins, notamment que certains voisins en Europe.
Alors l'explication par rapport aux autres pays, c'est vrai que les médicaments d'automédication, malgré tout, sont relativement identiques, en tous les cas, au niveau européen, concernant donc les médicaments qui sont à disposition des patients. Je pense que la différence n'est pas si grande, en tous les cas, au niveau européen, entre les différents États. C'est vrai que, par contre... Pour en revenir à un médicament extrêmement pris en automédication comme le paracétamol...
On va avoir l'occasion d'y revenir.
Par exemple, en France, la dose maximale qui est délivré au patient est au maximum de 8 grammes, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays, comme certains pays anglo-saxons par exemple.
8 grammes
par boîte.
Par boîte.
Au maximum.
Par contre, rappelez-nous bien sûr tout de suite la prise par jour maximum.
Alors, en automédication, le paracétamol, la dose maximale est de 3 grammes par jour, sans jamais dépasser 3 grammes par jour en automédication.
Avec un intervalle horaire entre deux prises.
Alors, l'intervalle doit être respecté, il doit être au moins de 4 heures entre deux prises. Donc toujours vraiment respecter ces 3 grammes, parce que c'est vrai qu'au-dessus de 3 grammes par jour, voire au-dessus de 4 grammes par jour, il peut y avoir un risque extrêmement important, extrêmement grave, notamment pour le foie.
On va vous retrouver, hein, professeur Alain Beaumelou, Nathalie Richard, tout de suite un témoignage. Ce témoignage, c'est celui de Sophie, 60 ans. Elle est parisienne, mère de deux grands-enfants. Elle a toujours eu recours à l'automédication pour elle comme pour sa famille. Raphaël Constant l'a rencontrée.
Je pratique l'automédication, je ne suis pas systématiquement adepte. L'automédication chez moi a des limites, mais pour tout ce qui est d'origine banale, je dirais, oui, je le fais maintenant pratiquement tout le temps. Un rhume, un mal de ventre, quelque chose qui, à mon avis, ne nécessite pas immédiatement une intervention de mon médecin traitant ou une intervention médicale, quelle qu'elle soit.
Et pourquoi vous préférez commencer par vous soigner vous-même, vous, votre propre famille et vos enfants, que d'aller directement chez le médecin ?
D'abord, quand vous habitez dans une grande ville, l'accès à son médecin traitant est devenu très difficile. Et dans certains cas, je pense que on peut pas attendre. Si c'est un petit mal bénin, on peut le soigner soi-même. Si c'est un rhume ou une grippe ou même un virus ne se soigne pas ni par antibiotiques, ni par médicaments spécialisés. Il faut laisser le virus passer, prendre de l'aspirine ou des choses toutes simples. Et dans ces cas-là, le coût d'une consultation n'est pas justifié.
Alors, dans quel cas vous vous automédiquez vous, ou dans quel cas, quand vos enfants sont malades, vous pratiquez l'automédication ?
Tout d'abord, j'ai acheté deux bibles. J'ai acheté la bible des huiles essentielles et la bible de soigner son enfant par l'homéopathie. J'ai eu de plus en plus recours à ce genre de pratique naturelle, ayant sur ma fille aînée à une époque utilisé beaucoup d'antibiotiques qui ne donnaient rien. J'ai trouvé à l'époque une pédiatre formidable qui soignait par des méthodes naturelles et je n'ai plus jamais utilisé ou pratiquement plus d'antibiotiques sur mes enfants. Mais je fais toujours attention, je fais pas n'importe quoi. Je ne mélange jamais de médicaments que je ne connais pas. Je ne connais pas les interactions qu'il peut y avoir. J'ai fait une erreur une fois en donnant à ma fille un médicament pour une otite qui était un anti-inflammatoire. Et en même temps, je lui donnais un autre de l'ibuprofène. Et le médecin m'a dit, mais non, ce sont deux anti-inflammatoires, donc vous doublez la dose, c'est une grosse erreur. Et depuis, je fais attention.
Alors justement, de quoi est composée votre armoire à pharmacie ?
J'ai toujours les médicaments d'urgence.
Vous avez deux boîtes en bois ?
Oui, j'ai deux boîtes. J'ai une boîte pour tout ce qui est pilules et comprimés. Et j'ai une boîte un peu plus spécifique pour le week-end avec les bobos, les compresses, les crèmes, les bandes. Voilà, tout ce qui peut servir en cas de chute ou de petits bobos.
Dans la première boîte, je vois donc de l'imodium lingual pour les diarrhées, de l'océlococinum généralement pour les états grippaux, du gaviscon
pour l'estomac, de l'arnica pour les petits bobos. J'ai toujours un désinfectant, soit en bombe, soit en crème. J'ai toujours de l'origoutte ou un produit pour les otites. J'ai du lumirelax pour les grandes fatigues musculaires. J'ai dans ma cuisine ma trousse, je dirais, de tous les jours. Aspirine, doliprane, de l'ibuprofène.
Donc on compte quand même 9 boîtes de différents anti-inflammatoires. C'est quand même une trousse à pharmacie bien garnie.
Oui, bien garnie, en sachant que je n'irai pas, par exemple, donner d'antibiotiques à un enfant ou à mon mari ou même à moi. D'ailleurs, on en prend très peu. Mais j'irai pas donner systématiquement un antibiotique en me disant, la dernière fois, elle a eu une angine, je lui redonne cet antibiotique. Non, pour moi, l'automédication a des limites.
Et en dehors des antibiotiques, est-ce qu'il vous arrive de donner à vos enfants des médicaments qu'un médecin vous a prescrits qui vous resteraient dans votre trousse à pharmacie et qui, pour vous, correspondrait à peu près aux mêmes symptômes que lorsque le médecin vous l'a prescrit?
Oui, je le ferai. Je le ferai pour moi, peut-être pas pour mes enfants, j'aurais un doute ou une hésitation. Mais connaissant les maux de chacun, par exemple ma fille cadette a des maux d'estomac, si elle me donne les symptômes de brûlure en me montrant exactement là où elle a mal, je commence par ça. Après, si ça continue, je vais voir le médecin. Mais en effet, je prendrai, s'il me reste des médicaments, la trousse de la dernière fois pour essayer d'enrayer le mal de cette fois-ci.
Alors, témoignage recueilli par Raphaël Constant. On a vraiment de quoi réagir hein, après avoir entendu ce témoignage. Déjà, sur un mot, je voudrais qu'on y revienne, professeur Alain Baumelou, le mot d'interaction. C'est très important quand on parle d'automédication.
Oui. Tout à fait. Interaction entre principes actifs. Interaction aussi au niveau du même principe actif. Nous avons tellement, sur le marché français, mais je pense que c'est dans de nombreux pays, nous avons tellement de formes utilisant, contenant le même principe actif, comme par exemple du paracétamol. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple du paracétamol. C'est indiscutable qu'au-delà de 3 grammes, une personne âgée, fragile, et très maigre, risque des effets indésirables hépatiques importants si elle cumule deux spécialités qui ont des noms différents mais qui contiennent toutes les deux du paracétamol. D'ailleurs, la publicité en France souligne cet élément de manière récente et je trouve que c'est extrêmement bénéfique. Donc, globalement, si vous voulez, sur le témoignage que j'ai entendu... On peut en parler.
On peut en parler. Elle dit aussi autre chose. Hein. Je voudrais vous faire réagir. Elle dit l'aspirine, une chose toute simple.
Oui, l'aspirine n'est pas une chose toute simple. Et on met en avant actuellement beaucoup le traitement par le paracétamol. L'aspirine à forte dose a des effets anti-inflammatoires. À dose plus faible, elle est utilisée surtout dans nos pays maintenant dans le risque cardiovasculaire. Mais c'est un médicament qui, à forte dose, a des effets indésirables, notamment digestifs. C'est indiscutable.
Cette dame dit aussi qu'elle utilise, qu'il reste, je vous laisse la parole tout de suite, Nathalie Richard, elle dit qu'elle réutilise les médicaments prescrits par son médecin. Alors là, c'est vraiment problématique.
Alors déjà, je voudrais aussi réagir par rapport à ce qui a été dit avant concernant des médicaments qui peuvent sembler anodins, comme l'aspirine, comme l'ibuprofène, comme le paracétamol. Alors vraiment, le message, c'est que aucun médicament n'est complètement anodin. Tous les médicaments, quand ils sont mal utilisés, peuvent être dangereux. Donc on l'a vu tout à l'heure pour le paracétamol. Le cas du paracétamol en cas de surdosage, c'est extrêmement grave pour le foie. L'aspirine également en cas de surdosage. Et l'ibuprofène également, quand il est mal utilisé. Alors il y a aussi, on a parlé aussi beaucoup des anti-inflammatoires non stéroïdiens, dont l'ibuprofène et la femme enceinte. Ça peut être extrêmement dangereux. Il n'y a aucun médicament sans aucun risque, même en automédication, même si effectivement la sécurité du médicament est assurée en automédication, il n'y a jamais aucun risque avec ces produits.
Alors justement, cette dame utilise des médicaments que lui a donné son médecin. Est-ce que ça plaide pas quand même pour la vente à l'unité, pour éviter que les personnes ne retournent dans leur armoire à pharmacie? Je dis entre parenthèses que la vente à l'unité des médicaments, c'était une des propositions du programme électoral d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on va y venir pour éviter ce genre de pratique?
Alors ce qui est clair, c'est que les médicaments qui restent dans les pharmacies, que ça soit par exemple les antibiotiques, comme l'indique cette dame en plus, qu'elle peuvent réutiliser, ou alors également, par exemple, les médicaments qui sont des tranquillisants, les médicaments pour dormir, comme les benzodiazépines, c'est quelque chose d'extrêmement dommageable. Parce que non seulement, en plus, ils peuvent être mal utilisés, mais en plus aussi être utilisés directement par les membres de la famille à qui, au départ, ils n'étaient pas destinés.
Professeur Alain Baumelou, ça pose aussi la question clé de l'autodiagnostic. Le patient croit savoir ce qu'il a. Je vais prendre un exemple tout banal, hein. Une angine. Il croit qu'il a une angine, il va prendre des antibiotiques parce qu'une fois précédente, il a été traité pour une angine bactérienne, mais là, c'est viral. Il prend des antibiotiques, ça ne sert strictement à rien.
Il est certain que dans une maladie virale, l'antibiothérapie ne sert strictement à rien. Et de ce point de vue-là, sur l'utilisation des antibiotiques, ce qui vient d'être dit est extrêmement important, dans la mesure où l'antibiothérapie... présente des risques individuels. Il y a toujours des risques immuno-allergiques de ce type-là, des risques également toxiques. Mais c'est un problème également de santé publique. C'est un problème de santé publique car utiliser des antibiotiques de manière non raisonnée, c'est favoriser l'émergence de souches résistantes. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles en France, il n'y a aucun antibiotique administré par voie générale qui est sur le marché de l'automédication.
Et on va tout de suite donner la parole à nos auditeurs. On va voir justement ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire. Le premier de ces auditeurs qui est en ligne avec nous, c'est Wilfried. Il est en ligne du Cameroun de Yaoundé. Bonjour Wilfried.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, bon, moi, en fait, il y a cela 2 mois, lors d'un examen anodin, j'ai découvert que je portais une hépatite B. Du coup, j'ai fait dépister ma petite amie et ma petite fille de 13 mois. Il s'est avéré que tous les trois, nous l'avions. Bon, nous avons entrepris d'aller nous faire traiter à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on nous a conseillé des examens préliminaires pour établir un traitement par la suite. Sauf qu'ils étaient très coûteux, à raison de 237 000 francs par personne, en fait.
237 000 CFA, ça représente 370 euros, effectivement. C'est un coût très, très, très important.
Oui. Donc, du coup, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas suivre le traitement par la voie normale, vu le coût que ça allait devoir nécessiter. Nous avons donc fait des recherches sur Internet et à partir desquelles nous avons remarqué certains médicaments, notamment le tenofovir, dont on dit qu'il traite à peu près 100% déjà aujourd'hui. Et c'est à partir de ce médicament-là que nous essayons de nous traiter en ce moment. En fait.
J'ai une question, Wilfried. Vous dites, on nous dit qu'il traite. Qui c'est ce « on » Parce que, est-ce que c'est un médecin qui vous a donné le nom de ce médicament? Ou est-ce que c'est encore ce que vous êtes glané comme information? Vous êtes allé glaner sur Internet?
En fait, on a glané sur Internet à partir des blogs, des sites spécialisés en médecine, en fait.
Donc, vous consultez sur Internet, vous achetez les médicaments sur Internet, vous dites que vous avez une petite fille de 13 mois. Elle aussi, vous lui donnez ces médicaments?
Bon, disons, on a regardé les prix, on disait qu'il ne fallait pas dépasser 100 mg par jour. Donc, du coup, pour nous, nous ne dépassons même, nous n'atteignons pas les 100 mg, prenons à peu près un comprimé par jour. Et pour elle, on découpe le comprimé, en fait.
Vous le découpez sous quelle référence? Je veux dire, vous l'avez pesé? Vous faites un rapport poids-médicament? Qu'est-ce que vous faites?
Bon, rapport poids-médicament, il y a des calculs qu'on fait, en fait, à partir des indications qu'on voit sur Internet.
Wilfried, quand vous faites ça, est-ce que vous n'avez pas conscience quand même de faire courir des risques à votre famille? Est-ce que vous-même vous posez pas des questions en disant, est-ce que je vais pas un petit peu trop loin dans cette façon de me soigner?
Ça, on le sait, parce qu'on a le choix entre laisser la maladie évoluer ou essayer de se guérir, en fait.
On comprend bien. Professeur Alain Baumeloup, ce que pose Wilfried, c'est non seulement la question de l'automédication, mais c'est avant et surtout la question de l'accès aux soins.
C'est extrêmement complexe, le cas de Wilfried, et la manière dont il le raconte déclenche obligatoirement beaucoup d'empathie face à la situation dans laquelle il est. Je réfléchissais en l'écoutant sur le meilleur conseil à lui donner.
Parce que c'est vrai qu'on peut dire, on peut faire la morale à des gens, il ne faut pas faire...
Absolument.
En même temps, s'ils n'ont pas les médicaments, s'ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas non plus rester sans rien faire.
Alors, moi, ce cas clinique qui est douloureux, première réponse, attention au tenofovir. Le tenofovir a une toxicité rénale qui est très bien connue, surtout à forte dose, donc attention. Moi, j'aurais tendance à répondre à Wilfried. Je comprends très bien sa difficulté. Je crois qu'il faut qu'il prenne l'avis médical le plus compétent possible autour de lui. Il faut qu'il cherche des deuxièmes, des troisièmes avis. C'est extrêmement important, car on ne peut pas soigner une hépatite B chronique, comme il le décrit dans sa famille, avec des médicaments d'automédication. L'automédication, c'est pas fait pour ça. J'aurais tendance à dire l'automédication, c'est fait pour les gens bien portants. C'est un peu idiot. Mais c'est fait pour le petit soin, pour le petit... Mais pas pour une hépatite B chronique.
Pas pour une hépatite, pas pour une tuberculose,
pas pour un paludisme
non plus.
Paludisme, c'est un petit peu important. Ils connaissent tellement bien la maladie, le palud, avec les crises palud, ils savent très très bien manier ça. Ils connaissent d'ailleurs des plantes qui... Donc c'est un peu différent. Essayons de nous situer dans leur environnement. Mais par contre, c'est pas un traitement de l'hépatite B. L'automédication n'est pas une solution pour l'hépatite B ou pour la tuberculose, qui est un mal latent qui exige un diagnostic médical.
Et en tout cas, des précautions particulières, on peut le dire, professeur Alain Baumeloup, pour un enfant.
Oh ben, L'automédication, a priori, en dehors des petits mots bénins que repère la mère, d'ailleurs, la première interview était tout à fait, de ce point de vue-là, positive, en ce sens qu'elle connaît certains symptômes, la rhinite, elle sait très bien, vous connaissez le dogme, la rhinite virale, si on la soigne, c'est 7 jours, et si on la soigne pas, c'est 1 semaine. Donc, finalement, l'automédication, c'est beaucoup pour le symptôme que l'on connaît. Et l'interview de Wilfried montre bien que là, il y a une prise en charge qui est fondamentalement différente et qui est dangereuse. Ténophovir chez un enfant, c'est dangereux et il faut qu'il se débrouille pour avoir un contact médical avec un service de maladies infectieuses parisien. Il y arrivera sûrement pour demander ce qu'il faut faire. Mais je peux absolument pas lui répondre aujourd'hui. Ce qu'il fait est dangereux.
Wilfried, voilà cette réponse du professeur Alain Baumelou. Bonne journée à vous à Yaoundé. On va prendre un autre auditeur, c'est Jean-Noël. Il est en Côte d'Ivoire, à Bouaké. Bonjour Jean-Noël.
Bonjour.
On vous écoute Jean-Noël.
Oui. Il faut dire que je suis drépanocytaire.
Mm-hmm.
Il y a 1 semaine de cela, j'ai fait une crise aiguë. Et nous sommes allés au CHU de Bouaké. Et arrivé là-bas, les médecins m'ont examiné. Et après, ils m'ont dit que je manquais de sang. Je manquais de sang, mais néanmoins, ils m'ont fait une perfusion pour essayer de calmer un peu les douleurs, parce que les douleurs étaient vraiment atroces. Mais le problème, maintenant, il fallait qu'on me fasse une transfusion sanguine. Mais à Bouaké, au CHU précisément, il n'y a pas de sang. Le sang manque vraiment.
Mm-hmm.
Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait revenir à la maison parce qu'il n'y a pas de sang. Il n'y a personne aussi pour m'aider.
Il n'y avait pas de solution.
Il n'y a pas de solution, on va dire ça comme ça. Or, je suis à Bouaké. Et Bouaké, il n'y a pas de sang. Là où il y a du sang, c'est à Abidjan. Mm-hmm. Abidjan, il faut faire plus de 360 km avant d'avoir du sang. Et là, je souffre. Les moyens manquent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Automatiquement, je fais recours à l'automédication. Je vais en pharmacie, comme on me dit que j'ai besoin de sang, alors je dis au pharmacien de me donner, à défaut d'avoir une poche de sang, je veux un médicament qui va me soulager, qui va peut-être me donner du sang et me soulager mes douleurs, parce que là, je souffre énormément. Il y a seulement 5 jours de cela. Et le médecin m'a prescrit des médicaments, je ne sais pas si je peux les citer, si vous me le permettez.
Ben, si c'est le médecin qui l'a prescrit, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème.
Non, ce n'est pas le médecin qui me l'a prescrit, c'est moi-même.
Ah, c'est vous, vous les êtes prescrits tout seul.
Voilà, je me suis dit, bon, à défaut d'avoir du sang, je peux avoir quand même un médicament qui va me donner du sang et qui va calmer mes douleurs. Voilà.
J'ai une question, Jean-Noël. Vous dites qu'il n'y a pas de sang à Bouaké. Par contre, il y a des médecins à Bouaké. Pourquoi vous n'êtes pas allé voir un médecin pour traiter, si vous ne pouvez pas traiter le fond avec cette transfusion pour la drépanocytose, pour traiter la douleur? Pourquoi vous n'êtes pas allé voir un médecin pour cela?
Si, je suis allée voir un médecin. Ils m'ont fait une transfusion, ils m'ont même fait des injections de trabat et de diclo, mais ça n'allait toujours pas.
Ça
n'allait toujours pas. Après 3 jours de traitement, ça n'allait toujours pas. Le problème, il fallait forcément qu'on me fasse une transfusion sanguine. Parce que je manquais vraiment de sang.
Donc, je
manquais vraiment de sang.
Donc, on est encore une fois, professeur Alain Baumelou, face à une impasse thérapeutique, non pas parce qu'il n'y a pas de solution, mais parce que Jean-Noël n'a pas les moyens d'aller à Abidjan pour faire cette transfusion. Il se retrouve dans une situation de douleur. Là, en fait, on est face à l'automédication, mais aussi face à la limite de moyens pour se soigner, tout simplement.
Oui, c'est pour ça qu'il est très difficile pour nous... Dans une structure de santé fondamentalement différente de répondre à Jean-Noël. Moi, je l'écoutais et je me demandais si au fond il ne relevait pas là une ambiguïté dans la prise en charge de ses symptômes. Je pense que le manque de sang chez lui va se traduire par de l'anémie et va donner de la fatigue. Alors que ce qu'il décrit, c'est la douleur. Alors je voudrais sur la douleur bien le mettre en face des risques de la prise d'anti-inflammatoires, car les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent faire saigner. Ils peuvent faire saigner de manière aiguë, ils peuvent faire saigner de manière chronique parce qu'il peut y avoir une irritation digestive. Donc, pour la douleur, essayez de ne pas prendre d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Tout cela est facile à dire pour un médecin qui est professeur de néphrologie dans un grand hôpital parisien et je conçois que ce soit difficile à entendre. Mais
c'est du bon sens quand même.
Mais c'est le bon sens pour une pathologie
Richard.
Aussi lourde.
Oui, juste rajouter quelque chose par rapport justement aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pas d'anti-inflammatoires non stéroïdiens pendant la grossesse. Complètement contre-indiqué. Là effectivement, on n'est pas sur le cas d'une femme, mais en tous les cas, concernant l'utilisation des INS et notamment l'ibuprofène chez la femme enceinte à partir du début du sixième mois de grossesse, ça peut provoquer la mort du fœtus in utero. Donc ça, c'est également un point important. On l'a dit tout à l'heure, il y a des risques pour tous les médicaments, pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens, effectivement. Il ne faut jamais dépasser les doses non plus. Il faut effectivement se traiter sur la durée la plus courte possible. Et une contre-indication absolue des anti-inflammatoires non stéroïdiens à partir du sixième mois de grossesse.
Oh, d'accord. Et justement, Jean-Noël, on vous souhaite une bonne journée à Boisquet, mais je vais rebondir avec notre prochaine interlocutrice. C'est Emilienne Yissibi Paula. Bonjour.
Bonjour, Laurence.
Vous êtes pharmacienne de santé publique, secrétaire générale du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun. On a entendu nos deux auditeurs, hein, Wilfried, hépatite B, Jean-Noël, drépanocytose. Ils n'ont pas les médicaments, ils se tournent vers l'automédication. Ce genre de cas, c'est quelque chose de fréquent.
Oui, au Cameroun également. Plusieurs personnes ont recours à des médicaments sans ordonnance médicale. Et même sans demander conseil aux pharmaciens, parce que plusieurs pensent maîtriser leur pathologie et connaître suffisamment les médicaments pour s'occuper soi-même de leurs problèmes.
Justement, ces médicaments sans ordonnance, la plupart des personnes que vous côtoyez au Cameroun, elles se dirigent vers quels produits, vers quels médicaments en particulier, Emilienne Yissibi Paula?
Alors, au Cameroun, presque toutes les classes thérapeutiques sont concernées, hein. Mais surtout des antalgiques, des antipyrétiques, des antipaludiques, des antiasthéniques, hein, pour contre la fatigue, des antitussifs, des pansements gastriques, des antihelminthiques, mais également des antiseptiques et même des antibiotiques. On a également des cas de patients qui arrivent en officine avec une vieille ordonnance, soit une ancienne boîte d'un médicament. Ceci pour des médicaments, pour des pathologies plus sérieuses, nécessitant absolument une consultation médicale et un suivi avec une prescription médicale avant délivrance. Mais on a ce cas assez fréquent, même des anxiolytiques, tout est vraiment concerné, toutes les classes thérapeutiques sont concernées.
Est-ce que les patients ont tendance à aller justement consulter le pharmacien, lui demander conseil, ou plutôt s'en remettre à ce qu'ils savent déjà, ou même écoutent parfois même les conseils de l'entourage? On a entendu tout à l'heure, Internet, c'est aussi très utilisé partout dans le monde, peut-être encore plus en Afrique de l'Ouest en matière de santé. On va chercher des conseils, des indications, voire même commander les produits. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes confronté?
Tout à fait. Les patients ont toujours l'impression qu'ils connaissent tout, qu'ils connaissent tout sur leur maladie, qu'ils connaissent tout sur le médicament. Et quand ils arrivent en officine, c'est pas pour demander conseil d'une façon générale. Donc d'une façon générale, on peut dire que les officines sont fréquentées. Il y a des pharmaciens, des patients qui y vont. Mais il faut noter qu'en dehors des techniques thérapeutiques classiques, il y a également des techniques thérapeutiques alternatives dont font partie. Donc, fait partie de la médecine traditionnelle auquel les malades vont également. Mais surtout, dans notre contexte, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un milieu où il y a une forte prolifération et un développement exponentiel d'un commerce illicite de produits pharmaceutiques d'origine douteuse et dans des conditions ne garantissant pas la qualité ni la sécurité. Patient.
Des médicaments par terre, hein, on les trouve pas dans les officines de pharmacie, voilà. On les trouve sur le marché tout simplement.
Voilà, dans certains pays africains, on parle de médicaments par terre, nous on parle de médicaments de la rue. Aujourd'hui, il y a de plus en plus ce qu'on appelle des kiosques. Alors malheureusement, certains Camerounais ne font pas la différence entre ces structures illicites et les officines de pharmacie. pas, ils sont ignorants peut-être, mais également ils sont trompés par une illusion de moins cher. Ils ont l'impression que quand c'est par terre, quand c'est sur la tête, dans les paniers, quand c'est dans un endroit, un petit coin, sans climatisation et tout, c'est moins cher. Mais c'est tout à fait une illusion parce que finalement, comme on dit chez nous, le moins cher est cher.
Ben c'est un problème qui se pose aussi en Haïti. Il y a un auditeur, un Nicolas, qui témoigne sur le site Facebook de l'émission. En Haïti, on prend les médicaments sans consultation préalable. C'est trop cher. On est obligé d'acheter les médicaments, soit avec une ancienne prescription, ou chez des vendeurs qui ne sont pas des pharmaciens. Encore une fois, quand on a les moyens, quand on a la connaissance, on peut dire que c'est simple de donner, entre guillemets, des leçons. Mais le problème de fond, Emiliane Issy-Bipola, c'est bien l'accès aux soins, l'accès à ces thérapies qui sont homologuées et aussi avoir les moyens d'aller consulter un médecin, tout simplement.
Oui, tout à fait. Nous sommes d'accord. Le problème qui est mis en avant, c'est l'accessibilité aux soins, l'accessibilité aux médicaments de bonne qualité. Et je pense que au Cameroun, comme dans d'autres pays africains, il y a des efforts qui sont faits dans ce sens, même si nous ne voyons pas encore concrètement les résultats à tous les niveaux. Dans la plupart de nos politiques pharmaceutiques nationales, l'objectif principal, c'est de rendre disponibles et accessibles des médicaments à toutes les couches de la population. Il y a des réflexions qui sont menées dans ce sens et nous sommes d'accord que un des axes à ne pas négliger, c'est de voir comment tous les patients, tous les Camerounais, puisque c'est du Cameroun que nous parlons, que tous les Camerounais puissent avoir accès à leurs médicaments quand il le faut, aux bons médicaments, aux médecins quand ils en ont besoin, d'où la nécessité de faire aboutir les projets sur la couverture sanitaire universelle.
Un projet porté par l'Organisation mondiale de la santé. Merci beaucoup, Emiliane Issy-Bipola. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun.
RFI à Douala, 97.8 FM. Yaoundé, 105.5 FM.
Professeur Alain Baumelou, on l'a entendu, hein, question de l'automédication qui se pose dans une autre dimension quand on parle de la santé au Sud, car en plus la problématique, on va dire, des interactions, du surdosage, eh bien, se pose tout simplement la question de l'accès aux produits et de la sécurité des produits.
Tout à fait. Toutes ces interviews soulignent bien, mettent bien en relief le fait que la médecine, c'est quelque chose de profondément social. Les stratégies de santé sont profondément différentes suivant les pays. D'ailleurs, vous avez commencé l'émission par souligner que dans certains pays, l'automédication était beaucoup plus répandue qu'en France. Et je pense que en écoutant toutes ces interviews, je pense que l'automédication n'est pas une solution de l'accès aux soins. L'automédication est en particulier dans les pays africains, c'est un palliatif face à des situations qui, sur le plan de la prise en charge, ne sont pas satisfaisantes. Un manque d'accès à un médicament anti-hépatite B, un manque d'accès à du sang, ce sont pas des situations auxquelles le médicament d'automédication peut répondre. Je rajouterais en plus que dans un pays comme la France, il existe des agences qui sont là pour contrôler la qualité du principe actif, le fabricant. Il y a toute une chaîne de bonne qualité du médicament qui fait qu'on peut pas remplacer ça par une automédication du médicament trottoir, etc.
Nathalie Richard, vous vouliez réagir?
Oui, sachant que par ailleurs, sur les médicaments qui sont vendus sur les marchés ou effectivement soi-disant un accès facile et moins cher, le grave problème qui s'est posé, et ça s'est posé à plusieurs reprises, c'est que le médicament ne contenait pas du tout ce qu'il était censé devoir contenir. C'est-à-dire que même on a des médicaments parmi ceux qui sont vendus justement dans les marchés, des médicaments qui ne contiennent rien, soi-disant. En fait, ce ne sont pas des médicaments. Effectivement, ce sont des produits qui sont vendus qui ont le nom de tel ou tel médicament.
Mais c'est à la couleur, mais c'est vide. C'est pas de, de l'amidon compressé, on va dire, de la farine compressée, tout simplement.
Ou pire, même des produits qui n'ont aucun rapport avec la composition du produit. Et des produits toxiques, des produits de dégradation, effectivement, comme le soulignait le professeur Baumelou. Il y a tout un contrôle sur les médicaments qui est vraiment nécessaire. Et ces médicaments qui sont vendus et qui sont d'un accès très facile dans les marchés ne sont absolument pas sécurisés en termes de leur composition, par exemple.
On va revenir à la situation en France, Nathalie Richard, avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres produits, selon vous, qu'il faudrait exclure du champ de l'automédication? Ça a été fait en juillet 2017 pour les produits dérivés de codéine, parce que des personnes usagères de drogue utilisaient, par exemple, ces produits, détournaient l'usage pour tout simplement se droguer. Est-ce qu'il y a d'autres produits aujourd'hui qui devraient changer de statut?
Alors, en fait, pour la codéine, ce qui s'est passé, le problème n'était pas des personnes usagères de drogue. En fait, le problème qui s'est posé avec la codéine, c'était que des adolescents et des enfants utilisaient les médicaments à base de codéine pour avoir des effets un peu similaires à ceux de l'alcool. Et effectivement, dans ce cadre-là, on a eu des enfants, des adolescents qui sont décédés.
Donc on avait quand même, en se promenant dans les rues de Paris, moi j'ai vu souvent certains produits, notamment un emballage vert, qui traînait à côté des trottoirs. Là, c'était des usagers de drogue.
Tout à fait. Mais c'est vrai que je vais pas revenir sur les médicaments de substitution pour les usagers de drogue.
Il y a eu des dispositifs mis en place.
Alors, il y a eu énormément de dispositifs mis en place, notamment des médicaments de substitution qui sont maintenant très utilisés et qui ont fait qu'en fait, c'est les médicaments verts, comme vous le disiez, étaient pratiquement, on va dire, un palliatif, mais ça n'avait plus rien à voir en termes de consommation. Vraiment, le vrai problème qui s'est posé pour les médicaments à base de codéine, c'était l'utilisation par les adolescents.
La dangerosité extrême. Mmh. Dernière question qui concerne toujours l'Agence nationale de sécurité du médicament, dont vous faites partie. Des recommandations par rapport, on va dire, au marketing, avec les marques ombrelles. On l'a souligné tout à l'heure, par exemple, avec le paracétamol. Une marque très connue réutilise son nom pour faire vendre. Là, il y a vraiment une stratégie commerciale de marketing. Et avec l'automédication, ça peut être dangereux.
Alors, l'Agence du médicament s'est réunie, effectivement, a fait un certain nombre de recommandations concernant le conditionnement des médicaments. Également, les marques ombrelles, et a recommandé qu'il n'y ait pas de marque ombrelle. C'est effectivement un message, le fait de réutiliser pour une composition différente.
Le même nom.
Extrêmement dommageable, extrêmement dangereux également.
Professeur Alain Baumelou, vous vouliez conclure?
Non, c'est pas une conclusion, c'est juste une remarque. On a beaucoup parlé des effets indésirables de l'automédication et de la sécurité. Et je pense que c'était nécessaire. Je pense qu'il faut avoir une vision stratégique dans le domaine de la santé qui est élargie par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a des domaines où, indiscutablement, on peut proposer une automédication responsable. Vous parlez tout à l'heure du passage du prescrit au non prescrit. Du non prescrit au prescrit du fait de sécurité, la codéine. Mm-hmm. Moi, je pense que, si vous voulez, il doit y avoir une réflexion au niveau du pays. Et là, je parle pour la France. Non pas de relistage, mais de délistage. Il est indiscutable qu'il y a un grand nombre de principes actifs qui sont utilisés dans de nombreux pays, qui pourraient être délistés en France. Et je pense que on a axé sur la sécurité. Il faudrait faire une deuxième mission sur les bénéfices éventuels de l'automédication dans une structure comme celle de la France. Je ne parle pas forcément.
Des pays du Sud. Merci beaucoup. Merci pour votre double éclairage, professeur Alain Baumelou, Nathalie Richard. Notre émission touche à sa fin. Nathalie Richard, directrice adjointe des médicaments au sein de l'ANSM. Notre émission touche à sa fin. Demain, dans Priorité Santé, nous allons parler de la psychiatrie en crise. Cette crise qui affecte ce secteur de la santé mentale, état des lieux et pistes pour essayer de changer la donne. Si vous voulez témoigner, poser des questions, le numéro de téléphone de l'émission 33 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sounois Assurance qui vous propose l'assurance habitation pour protéger vos biens, vos proches et votre voisinage. Sounois Assurance, notre métier, l'assurance.